Bonjour à toutes et à tous ceux qu'on n'a pas vus, tous ceux qu'on ne connaît pas, on n'en connaît pas un paquet ici. Hein. On ne connaît que les deux petits qu'on vient de voir ici. Donc, Joseph et Marie-Christine, c'est des bons, les Joseph. Hein. Tu as raison. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Je ne veux pas laisser de la place à la maladie. On dit souvent mon cancer, ma maladie. Ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie. Dès que tu te l'appropries, elle va commencer à prendre sa place. C'est une maladie. Donc, tous les deux, Joseph et Marie-Christine. Alors, on n'a pas voulu appeler notre fils Joseph, Jésus, on l'a appelé Damien, c'est mieux. Marié depuis 41 ans maintenant, ouais, ça fait un bail. Tous les deux des anciens militaires, donc c'était mon gradé, c'était mon chef. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé, je suis tombé amoureux de mon chef. Ça arrive, hein, ça arrive. Et ça fait maintenant 41 ans qu'on est ensemble. Et ça marche bien. Vous savez, ça marche encore même après 40 ans, hein. Ça marche encore. On a trois enfants, Alexandra qui est sur Paris, Licia qui est médecin donc à nos côtés sur Caen, et puis Damien. Damien, au début, on n'a pas aimé quand il est parti vous voir ici, hein, parce que vous habitez vachement loin, mais vraiment très très loin. Hier, on a fait 980 km hein, pour venir vous voir. Hein. Ça fait quand même du chemin. On habite sur les côtes normandes, donc je ne sais pas si vous voyez les côtes du D-Day, les côtes du débarquement. Et on habite sur celle que les Canadiens ont libérée, Juno Beach. Et on habite là, à 700 mètres de la mer. Donc, c'est chouette. Sauf une chose, c'est qu'en Normandie, il ne fait pas votre temps. Juste, il ne fait pas tout à fait votre temps. Voilà, donc Damien, c'est le troisième de la fournée. On ne l'attendait pas vraiment. Il est venu dans un carton pendant le déménagement. Mais on est tellement fiers de l'avoir. Et je sais que vous vous réjouissez aussi, vous, quelque part, aussi de l'avoir. C'est toujours une joie. Vous savez, même quand un enfant arrive en retard comme ça, qu'il n'est pas prévu, après, quand ils grandissent, c'est le cadeau que Dieu vous fait. Il faut laisser ces cadeaux arriver de toute façon. Voilà, donc pour moi, je n'ai pas autre chose. Je vais la laisser se présenter un petit peu.
Bonjour, merci de votre accueil. Moi, je voudrais particulièrement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à Francesca et Damien, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on espère qu'ils trouveront le lieu où le Seigneur veut les utiliser. Ils sont à bonne école. Nous avons la grâce. Nous n'avons jamais été dans le ministère depuis combien ? Je ne sais jamais. 41 ans. Et je voudrais vous encourager parce que lorsqu'on donne tout pour Jésus, la rémunération, elle est aussi avec nos enfants. Ne vous lassez jamais de prier pour vos enfants. On n'a jamais été dans le ministère à temps plein. On a toujours travaillé à côté, en élevant nos enfants. Et pour nous, la rémunération, c'est que nos trois enfants servent Jésus. Et ça, c'est une telle grâce. Pour nous, c'est la rémunération. Et voilà, ne vous lassez jamais, priez toujours pour vos enfants et croyez que le Seigneur n'est jamais oublieux, comme il est écrit dans Hébreux 6:10. L'Éternel n'est pas oublieux de ce qui est déployé pour les saints. Et ça, c'est vraiment une parole que je mets sur votre cœur. Alors, soyez persévérants, ne lâchez rien. Le Seigneur est fidèle. Si on lui donne tout, on aura une rémunération. On ne le fait pas pour une rémunération, mais on le fait pour sa gloire et il sert. Et il sert en retour. Je voudrais juste vous partager quelque chose par rapport à votre tableau, si vous me permettez. Je suis assez sensible à l'art. Vous savez, je suis formatrice en relations d'aide chrétienne et j'ai beaucoup d'art-thérapeutes aussi, ceux qui viennent vers l'art-thérapie. Et il y a vraiment une pensée majeure qui m'est venue avec ce tableau. Donc, tu nous as raconté hier l'histoire de ce tableau. Et en le regardant ce matin, il y a vraiment quelque chose qui m'a flashé. Et je voudrais vous encourager parce que bien souvent, on ne se voit pas à la hauteur qu'on est. Et je voudrais vous dire que dans ce tableau, c'est tout l'ensemble de l'Église. C'est qu'il y a toutes les couleurs. Toutes ces couleurs, elles ont été mises dans un ordre que l'artiste connaît. Il avait la vision. Mais vous êtes tous une couleur. Vous avez tous un potentiel. Et chaque couleur s'harmonise parfaitement avec l'autre. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Il n'y a que des gens que Dieu aime et qu'il veut utiliser. Et pas simplement dans le cadre de l'Église. Il veut utiliser tout le monde partout. Vous voyez ? Il y a une belle harmonie dans ce tableau. Alors, quand vous le regarderez, rappelez-vous que vous êtes une couleur, que ce soit des petits, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Vous êtes tous une couleur particulière et ce potentiel que Dieu a mis en vous, il est unique et Dieu en a besoin. Si vous ne savez pas encore là où Dieu vous attend, demandez-lui fermement et il va vous le révéler. Vous avez tous quelque chose à donner. Amen. Alors voilà, soyez encouragés.
Comme tu le disais, Joseph, nous n'allons pas à l'église seulement, nous sommes l'église. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que vous êtes un des maillons que Dieu veut dans cette église. Un maillon indispensable. Vous n'êtes pas venu juste comme un cheveu sur la soupe ici. Dieu vous a placé ici pour une œuvre particulière. Dieu vous a placé dans votre lieu, là où vous habitez, pour une œuvre particulière. Dieu vous a donné le boulot que vous avez pour une œuvre particulière. Vous êtes la lumière de Dieu là où vous êtes. Vous n'êtes pas juste comme un cheveu sur la soupe. Et dans cette église, Dieu a rajouté à cette église la personne que vous êtes parce que vous venez apporter votre couleur. Sans votre couleur, je dis souvent aux gens, quand tu n'es pas là, je sais que tu n'es pas là. Il en manque. Comme toutes les églises, le dimanche, il en manque tout le temps. Et je dis aux gens, je ne t'accuse pas de ne pas être là, mais dimanche, tu m'as manqué. Mais je n'étais pas prévu au service dimanche, mais ta présence m'a manqué. Ton onction m'a manqué parce que tu es l'église. Il manquait une couleur au tableau. Il faut bien comprendre cela. La vision de notre église, est, je pense qu'elle ressemble beaucoup à la vision de cette église d'ici parce que Damien me raconte, Damien m'explique un petit peu. Il me dit, oh, j'ai trouvé une église, papa, tu verras, c'est comme chez nous. C'est comme chez nous. J'ai été 10 ans pasteur dans un mouvement plus traditionnel que je tairai, mais où vraiment... J'ai vécu un petit peu sclérosé ce qu'on me disait de vivre en tant que pasteur. J'avais un pasteur senior au-dessus de moi. Alors, je vivais tout ce qu'il me disait de vivre. Et pour une raison particulière, on a quitté ce mouvement traditionnel. On a ouvert notre église donc en mars 92 avec mon épouse, d'abord dans notre maison, tout simplement. Et j'ai commencé à faire tout ce qu'on m'avait appris à faire avant. Bon pentecôtiste moyen, mais vraiment... Tout ce qu'on m'avait dit de faire, je le faisais. Et un jour, Dieu m'a interpellé et m'a dit, je t'ai jamais dit de faire comme ça. Pourquoi tu fais comme cela? Alors, c'était culte dimanche matin, c'était réunion après-midi, c'était au moins 2 réunions la semaine. J'abrutissais les gens. Il m'a dit, pourquoi tu fais comme ça? Laisse-moi faire, lâche un peu la bride parce que ce n'est pas ton église, c'est mon église. Alors, j'ai voulu le laisser faire. Ah, Il a mis le Bronx. Quand le Seigneur veut mettre le Bronx dans une église, quand il veut la chambouler, je peux vous dire qu'il la chamboule. Et là, il a commencé à la chambouler et il a commencé à me dire, il y a des valeurs que vous avez oubliées. D'abord, la valeur de l'accueil. Ah, vous savez faire des réunions, mais vous ne savez pas accueillir. Les gens, quand ils arrivent, ils s'assoient, ils attendent que ça commence. Et après, quand c'est fini, vous repartez très, très vite parce que vous n'avez pas le temps. Et suite à cela, le Seigneur m'a vraiment montré une certaine vision de l'Église. Et moi, je crois que chaque Église a sa propre vision. On ne doit pas être copie conforme de l'Église d'à côté. Si à côté, il y a une Église baptiste, une Église réformée, une Église de ce que vous voulez, elle a sa vision à elle qui lui est propre. Mais chaque Église doit avoir sa propre vision. Et Dieu nous a donné à tous les deux une certaine vision depuis maintenant 30 ans que l'Église existe, d'une certaine façon. Et elle m'a dit... L'église, la réunion ne commence pas quand tu commences à prêcher, elle commence, comme tu disais tout à l'heure, quand on est déjà au café. Et elle m'a dit, je veux que tu aies un coffee bar dans ton église. Et elle m'a dit aussi, mais ça nous est propre à nous, hein. Je ne juge pas les gens qui ont culte le dimanche matin, hein. Pas du tout. Mais elle m'a dit, maintenant c'est l'après-midi, tu feras les cultes, tu vas les faire l'après-midi, ça va être différent. Et nos cultes sont l'après-midi à 16h. Nous avons un coffee bar qui est quasiment aussi grand que l'église. Les gens arrivent à 14h30, 15h, et là on refait le monde, on boit un café, c'est un vrai bistrot. Et là on refait le monde tous ensemble. Mais je dis, la réunion commence déjà de l'autre côté. Là il y a déjà un accueil. Il n'y a pas longtemps, on a eu un gendarme qui est venu, qui était en recherche de Dieu, mais vraiment en recherche. Il a tout essayé. Témoin de Jéhovah, bouddhiste, il a tout essayé. Il y a 12 ou 13 églises évangéliques sur Caen, il en a essayé plusieurs. Et comme c'était un biker et que nous avions un groupe de bikers à l'église, un jour les bikers chrétiens de chez nous lui ont donné une carte. Et un jour je le vois arriver, m'explique son cas. Elle arrive en moto avec son gros sigle dans le dos. Et puis je dis, viens, on boit un petit coup, je t'offre un café. Et là, on boit un café. À 16h, les portes d'église s'ouvrent, on a notre culte. Nous, on mise beaucoup sur l'adoration. Pour nous, la louange, c'est aussi puissant que ce qui va être prêché après. Parce que si eux ne nous amènent pas au ciel, moi, je ne peux pas vous emmener au ciel. Si eux ne font pas le boulot d'ouverture, si eux ne percent pas les lieux célestes, moi, je ne peux pas le faire derrière. Et donc, ça commence, j'ai la prédication, et je retourne voir après. J'ai dit, David, comment c'était cet après-midi ? Il dit, je n'ai pas tout compris, c'est normal, mais ce que j'ai aimé, surtout ce que j'ai aimé, et ce qui m'a touché, c'est que tu m'as assis à une table, tu as bu un café avec moi, et tu as commencé à m'expliquer des choses toutes basiques, toutes simples. On sent que tu es vraiment dans la vie réelle. Vous voyez un petit peu ce qui l'a touché. Et Dieu nous a permis, depuis maintenant 30 ans, de faire cette église où on prend beaucoup dans nos bras, ça c'est clair, où on accueille beaucoup les gens d'abord, et on est dans une simplicité où chez nous, les titres, il n'y en a pas. Je refuse qu'on m'appelle pasteur. Je refuse qu'on m'appelle pasteur, Damien, tu sais. Parce que je suis un Joseph, je suis un Jojo. Et les gens ne me connaissent que comme ça. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne à cette simplicité de cœur où les gens vont avoir un écho. Vous savez, un chrétien, avant d'apporter du spirituel, je dis aux gens, apporte ton humanité à l'autre. Apporte ton humanité à l'autre. Quand je vais sur la plage chez nous, je dis, Seigneur, il y a sûrement quelqu'un à rencontrer et quasiment tous les jours, je parle avec quelqu'un. De la pluie, du beau temps, je ne suis pas en train de lui sauter dessus et lui expliquer le salut en quatre points. Mais seulement, je viens et j'essaye de trouver dans cette humanité une faille, une faiblesse, une fragilité, une souffrance et j'essaye de m'y insérer, non pas avec la parole, non pas avec un coup de verset, mais je viens juste avec mon humanité d'amour que Dieu a touché dans ma vie. Juste avec cela. Et je fais juste une pénétration toute douce. Et la personne au bout d'une heure me dit juste ça. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de parler avec vous ? C'est ça le témoignage chrétien. Les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il faut leur dire ? J'ai ouvre ton cœur et laisse couler. Laisse Jésus parler au travers de toi. Et les contacts comme ça qu'on a pu avoir. Je voulais juste vous expliquer ça parce que c'est la vision de notre église. Ce n'est pas une église qui se prend la tête, comme peut-être sûrement vous ici. Une église simple, qui sait faire les choses simples, mais qui a le cœur de Dieu. Dieu cherche des gens qui ont son cœur, juste cela. Alors, continuez dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai toujours voulu bosser à côté de mon ministère. Je n'ai jamais arrêté. Si, j'ai arrêté quand j'avais 60 ans, j'en ai 67. Il y a 7 ans que je suis au repos. 7 ans que je fais l'église à plein temps, qu'est-ce que je suis heureux. Tu vas voir, c'est vachement bien. Parce qu'avoir les deux casquettes, on en parlait tout à l'heure, c'est complexe. Pour nos enfants, on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, voilà. Ce matin, je vais pas être long. Je vois l'heure et Damien m'a dit, il y a une horloge à gauche là-bas, il faut que tu la regardes. Donc à cet effet, j'ai fait un petit bouquin, un petit livre au niveau de notre vision sur l'Église. Je n'ai pas voulu l'éditer, je n'avais pas du tout envie de l'éditer, je l'ai fait il y a 6-7 ans. Et puis il y a un éditeur suisse qui est tombé sur mon Facebook du matin, parce que j'édite quelque chose sur Facebook tous les matins depuis 8-10 ans. Il m'a dit, ce que tu fais vachement bien, est-ce qu'on peut l'éditer ? Ils ont édité ça. Et il m'a dit, t'as pas fait autre chose ? Tu sais, j'ai fait un bouquin sur notre vision d'Église. Il me dit, envoie-le-moi. Et quand il a vu, il a dit, je veux l'éditer. J'ai dit, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens. Je m'en fous, je prends toi, Charles. C'est ça les Suisses, hein. C'est bien les Suisses pour ça. C'est bien, ils ont les moyens que nous, peut-être Normands, on n'a pas. Et ils ont édité, donc ça sera là-bas, un tout petit livret. Ça n'a pas beaucoup de prétentions, mais ça vous montre simplement comment nous, on voit l'Église. Et comment Dieu peut toucher les gens aussi dans cette Église-là. De quoi je vais vous parler ce matin ? Je me suis dit, mais Seigneur, on fait une mission là, on est chez vous, on sera à Dijon-Beaune, donc parce qu'on fait partie du réseau Antioche de Michel Marvan. On sera à Dijon dans 15 jours et après on sera avec un groupe catholique en Auvergne parce que Dieu nous a montré aussi qu'il y a des églises à côté de nous et que dans les églises à côté de nous, il faut savoir aussi travailler. Dieu m'a dit, tu n'es pas forcé de bosser avec l'église catholique, mais bosse avec les catholiques. Donne ce que tu dois donner et je peux vous promettre, ça reçoit. Quand on prie pour les gens sur le devant, que vous voyez 3, 4, 15 personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit au même moment. Quand tu vis ça, tu dis, waouh, Seigneur, qui œuvre vraiment partout. Et j'ai fait un message que Dieu m'a donné très, très vite, mais j'ai jamais reçu un message aussi vite. Et j'ai dit à Damien, si ton pasteur veut, s'il veut, je peux apporter cela. J'aimerais vous parler de quelque chose, peut-être qu'on ne parle pas beaucoup dans les églises, c'est de l'accusation. Le fait de ne pas se voir en tant que chrétien comme on devrait se voir, de la bonne façon. Et je vais un petit peu vous parler de ça. On va prendre deux textes ensemble. Le texte de la femme adultère et le texte du fils prodigue. Dans Jean 8. Dans Jean 8, à partir du verset 3. Vous connaissez tous ce texte. À partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en état d'adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quelle puissance ! Cette femme méritait l'accusation. Jésus dit, moi je ne te condamne pas non plus. Pour moi, c'est un des versets des plus puissants de la parole, de savoir que malgré nos bêtises et nos erreurs et nos failles, il ne nous accuse pas, même en tant que chrétien. Alors, ok pour le passé, on dit, bah oui, mais Jésus ne nous accuse plus pour le passé. Mais est-ce que dans notre présent de chrétien, quand on déconne un petit peu, vous êtes sûr que Jésus ne nous accuse pas ? Trop, j'ai vu trop de chrétiens dans les entretiens qui viennent me voir, comme s'il portait mais un fardeau. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et le gars, il dit, je suis retombé encore dans mes erreurs. Comme si Dieu ne le connaissait plus. On va lire un deuxième texte. C'est le fils prodigue. Donc, à partir de. C'est dans Luc 15 qu'on trouve cela. Verset 15. Chapitre 15, pardon. Et à partir du verset 11. Donc vous connaissez ce texte, il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans un de ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ou tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, le père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, il l'embrassa. Le fils lui dit, « Mais mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Juste ça, puis après ils vont faire la fête. Waouh ! Ces deux-là étaient largement pécheurs. Et ces deux-là étaient largement condamnables. Mais ni le Père, ni Jésus, ni le Père dans les deux cas ne les ont condamnés, ne les ont accusés de quoi que ce soit. J'aimerais juste, s'il y a quelque chose que vous devez garder ce matin, en tant que chrétien, quand vous péchez, parce qu'on continue, je ne sais pas, peut-être que vous êtes beaucoup plus saint que moi. J'ai 44 ans de conversion. Il y a des moments où je dérape encore. Il y en a des comme moi ici. Il n'y en a pas, hein. Je savais qu'il y avait, c'était une église vachement bien. Damien me l'avait dit de toute façon. Alors, on croit tous en tant que chrétiens que dans notre passé, nous étions des pêcheurs invétérés. On est tous d'accord. Vous savez, pour ma part, j'étais un type, je suis un ancien marin, j'étais au litre de whisky par jour. Un par jour. Je ne sais pas un verre. 26, 27, 28. Comme je dis souvent, mes meilleurs potes, c'était Johnny Walker et Jack Daniels. Ceux-là, je les connaissais bien. Et un jour, comme ça, instantanément, dans une église, Dieu a fait non pas de moi un abstinent, parce qu'aujourd'hui, quand je bois un apéro, j'aime bien, mais quelqu'un de guéri, de totalement guéri depuis 44 ans. Et je connais mon passé, parce que s'il y a eu l'alcool, il y a eu tout ce qui va avec l'alcool, aller chez les prostituées, enfin tout ce que j'ai pu vécu. Vous savez, nous les marins, quand on est en escale, on a 4 jours de repos seulement. Et quand vous venez de vous taper 3 semaines de mer avec des paquets de mer de 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres de haut, quand vous lâchez les fauves en escale, ben vous lâchez des fauves. Et j'étais un fauve raciste en plus. C'est ce que j'ai vécu. Et ce Seigneur, moi je crois qu'il a effacé ce passé. Et on croit tous ici, quelle que soit l'erreur qu'on a faite, qu'on a commise, le passé qu'on a, on sait tous qu'il a gommé ce passé-là, il n'y a aucun problème. Il n'y avait personne de parfait ici, je ne pense pas. Un jour, il y a un pasteur qui était dans une grande église. Et il pose cette question, il parle comme je viens de vous le dire, et il dit, est-ce qu'il y a eu quelqu'un de parfait dans sa vie passée ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment parfait dans ce qu'il vit aujourd'hui? Puis il y a un petit bonhomme qui est devant là, fier comme Artaban, et il se lève et dit, moi, monsieur le pasteur, je suis parfait. Et dans le fond, il y a une petite femme qui se lève. C'était sa femme. Jules, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Tu peux rien cacher à ta femme. Et s'il y en a une qui savait que lui, il n'était pas parfait, c'était sa femme. Alors Jules, il vaut mieux que tu t'assoies. J'ai noté une phrase l'autre jour, je crois que c'est Moody qui a dit ceci. Lorsque je veux vérifier si un homme est un chrétien authentique, je n'irai pas demander à son pasteur, mais à sa femme. Demandez-lui. Ah, les gens te trouvent gentil comme pasteur. Et elle dit souvent, je vais vous le prêter 3-4 jours, mon mari, vous allez voir. Vous allez voir s'il est si gentil que cela. Quand nous sommes venus à Jésus, c'est ça la grâce. C'est qu'il a effacé tout ce qui me condamnait. Waouh. Quelqu'un peut venir dans mon église et dire à tout le monde, je sais qui est ce type qui prêche. C'était un pourri, c'était un alcoolique, c'était un raciste. Je me battais en boîte de nuit quasiment tous les jours. Je sais qui est ce gars. Mais je pourrais lui dire, mais je sais qu'il était, je sais que j'étais comme ça, mais je ne suis plus ce gars. Dieu, et c'est dans Colossiens 2 que l'apôtre Paul dira, vous étiez morts par vos offenses, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ça veut dire que c'est fini, ce passé, il est bien passé, il est derrière. Il est derrière, il est réglé. Ça veut dire qu'il n'a plus de pouvoir sur moi. Il n'a plus d'autorité sur moi. Je dis souvent, arrête de discuter aux gens. Arrête de discuter avec ton passé. Il n'a plus rien à te dire. Mais combien de fois, vous, comme moi, nous discutons avec notre passé? Si vous saviez le nombre de fois où le diable a essayé de me ramener le souvenir de l'alcool lorsque je buvais un coup comme ça avec quelqu'un en me disant, Jojo, ça va revenir. Parce que chez les alcooliques, ça revient tout le temps. Alors oui, ça revient tout le temps. Je sais, j'ai un beau-frère, il est rendu à 19 cures. Et il a rechuté il n'y a encore pas longtemps. Waouh ! Ça revient ! Mais quand tu sais que tu sais que tu sais que tu es restauré et guéri, que ton passé, il est là-bas derrière, tu sais que ça ne reviendra pas. Je dis souvent que avant, c'est l'alcool qui me tenait. Maintenant, c'est moi qui tiens le verre. On me dit, quand tu prends la Sainte-Seine, Jojo, ça te fait rien, un petit verre de vin? Si, oh non, tu peux m'en donner du bon. Là, on s'est arrêté où hier? À Tavel. J'adore le Tavel. Et quand j'ai vu que Tavel, c'était un bled, enfin un petit pays d'ici, j'ai dit, il faut que j'y retourne. Il y a sûrement une cave ou deux par là-bas, il faut que j'aille voir. Vous voyez, je sais que maintenant, c'est moi qui le tiens. C'est plus lui qui me mord et c'est plus lui qui le tient. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que quand Dieu a réglé ton passé, il n'est pas en train de te dire « J'ai réglé ton passé, maintenant ça suffit, mais à partir de maintenant, je t'ai à l'œil. » Parce que c'est souvent ce qu'on croit. Non, Dieu nous prend simplement dans nos bras et il nous accepte tels que nous sommes. Ça, c'est aussi une spécificité de notre Église. Quand les gens viennent dans notre Église, je veux les accepter tels qu'ils sont. Oh la vache, t'es catholique ? Ça pique. Non, je ne dis pas ça. Je dis sois béni, sois accueilli ici. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il n'y a pas longtemps, il y a deux femmes qui vivaient ensemble, dont une fille de pasteur, qui s'était fait virer de l'église de son père, forcément. Enfin, forcément, non, on n'est pas obligé. Et elles ont demandé à quelqu'un qu'elles connaissaient bien dans notre église, « Mais est-ce que je peux venir dans ton église ?» Et cette femme qui nous connaissait bien a dit, « Oh, tu sais, on connaît Jojo, tu peux venir. Vous pouvez venir dans notre église. Est-ce que pour autant, j'accepte l'homosexualité ? Pas du tout. Par contre, mon devoir, et Dieu m'a dit, tu dois aimer les homosexuels et haïr l'homosexualité. Et donc, on les a acceptés. Et j'ai toujours ouvert mes bras à ces deux femmes. Jusqu'au moment où après, elles ont été plus loin parce qu'elles avaient dans l'idée qu'on les marie, là, j'ai dit, hop, stop. Ça, non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus loin. Puis après, elles ont quitté. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'elles ont reconnu en disant, tu nous as accueillis tel qu'on était. Tu nous as reçus tel que nous étions. On dit souvent que notre église est une église interconfessionnelle. On a des gens qui viennent, qui voient un culte le matin, mais ils disent, mais c'est tellement bien chez vous l'après-midi qu'on veut retourner chez vous l'après-midi. Et on a des églises, on a des gens qui sont non charismatiques, qui vont dans leur culte non charismatique, mais ils viennent l'après-midi en disant, mais c'est tellement bien tout ce que, la façon dont vous faites l'après-midi. Et on ne leur dit pas à chaque fois, tu dois faire un choix. Non, on ne leur dit pas de faire un choix. On les aime, on les accueille. Je dis souvent, notre rôle de chrétien n'est pas de juger les autres, il est de les aimer. Son rôle est de juger. Ne soyons pas des juges à la place de Dieu. Donc par rapport à notre passé, arrêtons mes amis de vouloir y retourner ou de vouloir croire que le passé va revenir dans nos vies en tant que chrétiens, parce que j'ai trop vu ça chez les frères et sœurs en Christ, leur passé est en train de revenir, mais il est en train de revenir avec fracas, il est en train d'ouvrir la porte de leur présent. Dieu a réglé le compte à son passé, et quelqu'un dit ceci, le passé est un lieu de villégiature, mais c'est jamais un lieu de résidence. Il est passé. Moi je suis passé par où je suis passé. Vous savez quoi ? J'ai envie de vous dire, je n'ai pas si honte que ça de mon passé, parce que ça a construit l'homme que je suis aujourd'hui. Et si aujourd'hui, j'ai devant moi des gens de péché, je peux les comprendre. Mais si j'étais un saint dans le placard des saints, je ne comprendrais pas ces gens-là. Ah, monsieur, mais vous êtes tellement vilain. Non, je prends et j'accepte. Vous savez, on a fait 3 ans, on a été 3 ans éducateurs à Mulhouse, dans un centre de réinsertion. On accueillait 400 délinquants. Mais des délinquants lourds. Damien n'était pas né encore à l'époque. Et je peux vous dire que j'étais pasteur dans l'église de Mulhouse avec 4 pasteurs et j'étais éducateur. On était éducateurs tous les deux dans le centre de réinsertion. C'était des tueurs, des gars qui avaient fait 25 ans, 30 ans de centrale, des gars qui avaient tué, des gars qui avaient violé des enfants. Et on vivait avec nos 2 filles en plein milieu du centre. On avait notre appartement en plein milieu. Et les pasteurs, je leur disais toujours, « Ah, tu devrais avoir des entretiens avec les gars du centre. » Et les pasteurs me disaient, « Ah non, tes gars, j'en ai peur. Je ne peux pas aller les voir. Je ne peux pas, j'ai peur d'eux. » Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut avoir un passé pour pouvoir avoir un présent. Parce que quand tu as vécu un passé difficile, quand tu as vécu un passé lourd, quand tu sais par où tu es passé, tu peux comprendre celui qui traverse son présent aujourd'hui. Sinon, tu ne peux pas le comprendre systématiquement. Le passé est le passé, mais tu dois vivre ton présent avec Dieu. Et je sais que ça concerne sûrement des personnes ici qui repartent de temps en temps dans leur passé ou qui simplement ont la trouille, ont la peur, sentent que quelque part ça peut revenir dans leur présent parce que ça a tellement été fort, ça a tellement été fort. Je dis souvent, vous savez pourquoi le pare-brise est plus grand que le rétroviseur ? Parce qu'il faut regarder vers l'avenir. Alors j'ai dit souvent aux gens, regarde dans ton pare-brise vers l'avenir et jette un œil dans le rétroviseur pour ne pas que ton passé revienne te doubler. Juste cela. Mais je vais aller un petit peu plus loin. C'est vrai que le passé est passé et nous le savons tous ici. Mais nous nourrissons encore en tant que chrétiens de l'accusation sur nos vies, lorsqu'en tant que chrétiens nous péchons encore et nous croyons que Dieu nous en veut. Parce qu'il est là le problème. Je me rappelle, on avait fait un camp avec les délinquants dans le centre et je n'étais pas bien parce que dans ma tête, je ne sais pas vous, mais il y a des moments dans nos têtes, c'est un peu le chantier, non ? Selon ce que vous vivez et selon ce que vous traversez, ce n'est pas toujours nickel là-dedans. Et je dis souvent, heureusement que, comme dans les bandes dessinées, je n'ai pas une bulle au-dessus de ma tête et que les gens puissent lire. Sinon, je ne sortirai jamais de chez moi, pas vous ? Jamais je ne sortirai de chez moi. Et je n'étais pas bien. Et là, il fallait prier pour ces délinquants là, qui étaient là, qui avaient vraiment besoin de prière. Et je restais assis dans mon coin parce que comme je n'étais pas bien, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais aller leur donner ? Mais je suis pire qu'eux. Je suis, ça ne colle pas du tout dans ma vie. Et l'éducateur qui était avec moi m'a pris, m'a dit, tu dois aller prier pour les gens. Non, mais Dieu n'agira pas avec moi parce que dans l'état où je suis, je pense que Dieu ne pourra pas agir avec moi. Et il me dit, va prier avec eux. Et au moment où j'ai commencé à aller prier avec eux, ces mauvaises pensées sont parties. Et là, le don a commencé à couler. J'aimerais vous dire ceci, c'est que le don que Dieu vous a donné n'est pas annulé par votre péché. Et l'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple des médecins. Ma fille est médecin, donc c'est l'exemple que je prends souvent. Un médecin qui est malade peut toujours signer des ordonnances. D'accord ? Et il peut toujours faire une auscultation. Il peut toujours vous regarder, vous voir dans ce qui ne colle pas. Et quelquefois, en tant que chrétien, malheureusement, on sait que notre passé a été pardonné, on sait que notre passé a été réglé, mais que dans notre présent, on a été tellement loin dans notre passé qu'on est juste toléré par Dieu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on vit, que vous vivez quelquefois ? Vous ne vous sentez pas accepté pleinement par Dieu. Et je vois trop de gens qui, le dimanche, arrivent à l'église, mais la tête, mais vous savez, la tête baissée, je sens qu'ils ont une mauvaise semaine, qu'ils ont peut-être complètement même fait des choses pas terribles, mais ils se sentent mais comme la vilaine petite bête noire, vous savez, elle est là, mais elle n'ose même pas regarder au ciel, elle n'ose même pas regarder le frère qui est si saint, cette sœur qui shine, qui brille, qui est tellement belle, hein, si vous saviez. Je vois trop de chrétiens qui portent l'accusation comme si Dieu les tolérait seulement en disant « Bon, je t'accepte au culte, mais bouge pas une oreille. » C'est pas cela. On ne peut pas vivre comme cela. Et les gens croient, trop de chrétiens croient, que le passé a été réglé, mais dans leur présent, lorsqu'ils pêchent, Dieu ne les accepte plus et ne pourra plus se servir d'eux. Dieu les mettra au rancard. Combien de fois des hommes qui sont venus me confesser, parce que nous les hommes, on est quand même assez farcis au niveau sexuel, au niveau dans nos pensées, c'est terrible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fort. Et combien d'hommes sont venus s'entretenir avec moi en disant « Mais Jojo, Dieu ne se servira jamais de moi. Pas dans l'état où je suis. » Et je les regardais, je t'ai dit « Je suis un homme comme toi. Pourquoi ça t'arrive aussi ?» Ah, je dis oui. Ouais. Tout comme toi. Tout comme toi. Et quand je faiblis, je regarde juste le ciel, je dis « Seigneur, je te demande juste pardon. » Et je sais qu'au même moment où je dis ça, le Seigneur me dit « Alors, fonce maintenant, faire ce que tu dois faire. Fonce, faire ce que tu dois faire. » Ce n'est pas évident. Vous ne connaissez pas, moi je dis à ces hommes, vous ne connaissez pas le papa du ciel qui est un papa d'amour, qui vous a accepté tel que vous étiez et qui vous prend aujourd'hui, quand bien même il sait qu'on... Vous savez, quand le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, le jour où il vous a accepté, il n'était pas en train de dire, ça y est, maintenant il va arrêter ses bêtises une fois pour toutes. Mais non, la Bible dit qu'il sait que nous sommes poussière. Et la Bible me dit dans un autre endroit que de toute façon, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur, même en tant que chrétien. Lisez Romains 7 de l'apôtre Paul. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je devrais faire. On est tous dans ce schéma-là, on est tous dans cette image-là. Et on continuera, je dis souvent, alors j'ai une femme qui est psy, qui guérit, qui restaure les blessures des gens, mais elle n'est pas en train de leur dire, à partir du moment maintenant que tu m'as vu, tu ne seras plus blessé par rien. Mais toute la vie, on nous blessera. Ce qu'il faut, c'est que la blessure ne nous empêche pas de vivre. Elle les aide seulement à ce que la blessure soit là quelque part, soit restauré pour une grosse part, mais qu'il puisse continuer à vivre malgré la blessure, à dépasser cette blessure. Connaître Dieu, c'est connaître ce papa d'amour qui nous aime même si on n'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a une chose que je sais, qu'on ne m'enlèvera jamais, c'est que mon Dieu m'aime tel que je suis. Malgré mes imperfections, Dieu sait quand on vient à lui qu'il y aura des rechutes. Dieu sait qu'il y aura des gamelles. Dieu sait que je ne ferai pas tout ce qu'il faut, que je ne penserai pas toujours tout ce qu'il faut, et pourtant, il continue à m'aimer. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, « J'ai donné 1000 raisons à Dieu de ne pas m'aimer, et il continue pourtant à m'aimer tous les jours. » Il continue à m'aimer tous les jours. Alors, c'est vrai que quelquefois, dans notre vie chrétienne, on gagne, mais je vous pose une question. Est-ce qu'on gagne tout le temps? Quelquefois, on perd. Est-ce qu'on est toujours dans Romains 8, vous connaissez ce verset des plus que vainqueurs? Est-ce qu'on est toujours des plus que vainqueurs ou est-ce que quelquefois on n'est pas aussi des plus que vaincus? Ça arrive. Mais son amour, je reviens là-dessus parce que je veux vraiment enfoncer ça dans vos cœurs ce matin. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne m'aime pas à cause de ma sainteté, mais à cause de la sainteté de Christ en moi. À cause de ce que Christ a fait sur la croix. L'amour de Dieu est inconditionnel et il continue à m'aimer et à m'aimer et à me pardonner encore. Et à me pardonner encore. Dans Esaïe 54, verset 10, « Même si les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi parce que mon alliance ne peut pas chanceler. » Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu a fait une alliance avec vous. Et de son côté, ça ne va jamais se rompre. Ça continuera. Ça continuera. Et nous, nous croyons que quand nous péchons, d'un seul coup, il y a un stop à son amour. Il y a une mise à part. Le père du fils prodigue, il aurait pu dire au fils qui revient, hop, 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 doucement, toi. Il aurait pu dire, assez maintenant que tu reviens. Vous ne croyez pas qu'on pense comme ça? T'as fait quoi de mes sous? On m'a dit, j'ai lu sur Facebook que t'as fait des drôles de trucs, là. Il aurait pu dire ça, le père. Il aurait pu l'accuser. Il aurait pu le mettre à part. Il aurait pu lui dire, à partir de maintenant, je t'ai à l'œil. Ce n'est pas du tout ce que le père a fait. Au moment où le fils a dit, mais père, j'ai péché contre toi, il n'a pas pu lui dire. Il l'a pris contre lui. Il l'a serré dans ses bras. Le meilleur, je dis souvent que les meilleurs outils de guérison que nous pouvons avoir, c'est les bras. On m'a jamais pris dans mes bras. Je suis breton d'origine, maman est d'une île bretonne, papa, il est juste à côté. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un bisou, je ne savais pas ce que c'était que les bras. J'avais un bisou, je crois que le 31 juillet, le jour de mon anniversaire. Ce n'étaient pas des mauvais parents, seulement ils ne le montraient pas. Il y a beaucoup qui ont connu ça. Vous savez, le geste affectif qui compte. Et aujourd'hui, dans notre église, on a appris une chose. Arrête de parler, prends-le dans tes bras. Un jour, ma femme était en train de parler avec une femme dans notre église. Elle était à la maison, dans notre appartement. On avait l'appartement au-dessus de l'église. Je rentre de la Hague, je rentre du boulot. Et elle me dit, tiens, tu tombes bien, toi. Elle avait besoin d'un homme. Elle a fait son boulot avec cette femme. Une femme qui avait été violée plusieurs fois. Et cette femme, elle avait une relation au genre masculin qui était très typique. Ça veut dire qu'il ne fallait pas l'approcher à moins de 2 mètres. Et même moi, en tant que pasteur, quand elle me saluait, « Salut Jojo !» Elle m'a envoyé un gros coup de poing le matin. Je lui ai dit, « Tu ne peux pas être un peu plus douce ? Ah, ça, c'est ma façon, tu l'acceptes ou pas ?» Mais elle était adorable. Elle a même été un temps missionnaire en Afrique. Seulement, au fond d'elle-même, il y avait une blessure par rapport au genre masculin, mais qui était terrible, terrible, terrible. Et le gros dilemme, c'est qu'elle avait commencé à connaître un homme dans notre église, mais j'ai dit, « Ces deux-là, s'ils se marient, s'ils ne peuvent pas se toucher, il va y avoir des problèmes. » Je pense que ça va être difficile, on aura d'autres problèmes à gérer derrière. Si je les unis devant Dieu, il va falloir unir les corps derrière devant Dieu aussi, et ça va être autre chose. Et là, elle m'a dit, tu tombes bien. Et quand je suis arrivé, elle l'a mise dans mes bras, et elle lui a dit, prends Jojo dans tes bras. Alors là, ce n'était pas possible. Non, pas question. Elle restait raide comme ça. Son passé, même en tant que chrétienne, était toujours là. Et là, moi, je l'ai prise dans mes bras. J'ai serré de toutes mes forces. Et là, je lui ai dit, c'est là. Tu connais ta confiance en ton pasteur? Elle m'a dit, oui. Ta confiance dans Dieu le Père? Eh bien, je suis le substitut du Père et je te prends dans mes bras. Et là, à ce moment-là, juste, il y a eu ce... on a senti comme une... Elle est partie en liquide, vous savez. Et tout était parti à ce moment-là. Et ils ont pu se marier. Ils ont pu avoir des enfants. Et ça s'est bien passé. Juste pour vous dire, vous avez vu le passé qui revenait dans sa vie, qui était toujours là, ancré. Mais les bras ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et c'est exactement ce que le père du fils prodigue a fait. Il lui a dit, tais-toi, viens dans mes bras. Et après, il ne lui a pas dit, tu vas être dans l'enclos des serviteurs. Il a dit, vous lui mettez un anneau au doigt, ça veut dire qu'il est mon fils à nouveau. Quand vous êtes converti, même si le fils il a eu des rechutes après, Dieu vous dit, vous êtes fils et fille du roi des rois maintenant. Oui, il y aura des gamelles, oui, il y aura des rechutes, oui, dans ta tête, il y aura des pensées qui ne seront pas claires et pas clean, mais tu restes mon fils et ma fille. J'ai souvent dit, quand Damien faisait énormément, oh mince, il est là, d'habitude quand je prêche, il n'est pas là, c'est plus facile, mais là, il est là. Quand il faisait beaucoup de conneries, je lui ai dit, si un jour tu vas en tôle, j'irai quand même t'apporter des oranges parce que tu restes mon fils. Je l'aurai amer, mais tu restes mon fils. Et c'est exactement ce que Dieu fait, nous restons son fils malgré nos erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui est glorieux. C'est quelque chose qui est glorieux. C'est l'apôtre Paul qui disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a des moments où vous êtes faible, Dieu va vous renforcer. Dieu va se servir de vous. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent indigne de servir? Tu disais, Joseph, nous sommes l'Église. Chacun, pour notre part, vous avez reçu un ministère. Selon Éphésiens 1, vous avez été élu avant la fondation du monde. Et sur sa table à dessein, quand Dieu vous a créé, il a fait une œuvre merveilleuse. Waouh, vous saviez ça? Et quand il vous a créé, il a fait des dons en vous. Il a fait des beautés, mais merveilleuses en vous. Maintenant, la vie vous a un tout petit peu sali. La vie vous a un peu cassé. Mais maintenant que vous êtes revenu à lui, il est en train de vous restaurer. Et j'aimerais juste finir par rapport à l'accusation. On va prendre l'évangile de Jean au chapitre 21. Et j'aimerais finir sur l'apôtre Pierre. Et rester un petit peu là-dessus, mais je ne vais pas être très long. Vous connaissez l'apôtre Pierre? Le fier apôtre Pierre. Le plus que vainqueur apôtre Pierre. Un marin, quoi. Marin-pêcheur. Vous savez, toute ma famille était marin-pêcheur. Comme on dit, c'est les grandes gueules, c'est ça qu'on dit. Hein. Jean 21, et à partir du verset 15. Là, il y a une confrontation de honte et d'amour en même temps. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre, attristé de ce qu'il lui avait demandé pour la première fois, « M'aimes-tu ?» Il lui répondit, « Mais Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, et ainsi de suite. Mais vous avez vu la confrontation qu'il y a. L'apôtre Pierre, après 3 ans d'études bibliques, 3 ans et demi d'études bibliques, avec le meilleur des coachs, le meilleur des enseignants, il a tout faux. Comme quoi, même si vous avez un super enseignant, vous pouvez avoir tout faux derrière. Il a renié Jésus après 3 ans. On est tous en train de se dire, « Oh, moi, si j'avais connu Jésus, moi j'aurais été un bon chrétien. » Alors, Judas, vous savez qu'il a eu les mêmes enseignements. Vous avez vu comment il a fini? Ce n'est pas l'enseignant qui compte. Mais là, l'apôtre Pierre, malgré tout cela, il s'est planté. Moi, perso, je n'aurais pas donné un diplôme d'apôtre. Hein. Parce qu'il a été à la bonne académie. Il a été à la très, très bonne académie. Moi, je n'aurais pas donné un diplôme en quoi que ce soit. Et pourtant, Jésus va faire ce choix merveilleux avec l'apôtre Pierre. Il le remet dans son appel. Comment tu aurais réagi si dans un témoignage tout à l'heure, là, j'ai entendu quelqu'un par rapport à l'hôpital qui n'osait pas trop. C'est la femme de Sylvain, je crois, hein, qui n'osait pas trop dire. Ah oui, tu es là. j'ai tout. J'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. C'est rien ça. Et quelquefois, combien on le fait pas, on a honte derrière, on dit Seigneur, mais pourquoi j'ai pas dit? Pourquoi j'ai pas fait plus? Pourquoi j'ai pas fait plus? Un jour, j'étais dans un magasin et Dieu m'attrape souvent comme ça. Et dans un magasin, il me dit, toi la femme qui a un t-shirt vert là-bas, va la voir dans le magasin et va prier avec elle. Puis des fois je peux, puis des fois j'ose pas. Des fois j'ai l'agnac, des fois j'ai pas l'agnac. Des fois, alors je suis là, je suis prêt à y aller, je dis à ma femme, bon, j'ai un truc à faire, alors essaie. Et je vais vers la femme, puis là, il y a des mondes autour d'elle. Alors je dis, non, je ne peux pas, elle est aux légumes, là, je vais attendre qu'elle parte plus loin. Après, elle va plus loin. J'attends qu'elle soit toute seule. Puis à un moment donné, on était à Mulhouse, je crois, et je rate complètement la femme. Et je dis, Seigneur, ah ben toi, je n'ai pas pu. Il y a des moments où tu as l'agnac, il y a des moments où tu n'as pas l'agnac. Je n'ai pas pu. J'ai pas réussi, mais je m'en voulais, vous savez, je m'accusais, le Seigneur m'a montré quelqu'un, j'avais des choses à faire avec elle, mais je la connaissais pas. Je dis, Seigneur, écoute, bah, ça sera pour une autre fois. Vous savez, on est vite fait de se trouver des excuses, hein, de se disculper, et on va manger une glace tous les deux, juste un glacier à l'extérieur du magasin, et on mange les glaces. Vous savez, les glaces, quand ça fond, on en a plein les mains. Pas grave, je mange ma glace. Et à ce moment-là, je vois la femme qui sort du magasin. Et le Seigneur me dit, t'as une dernière chance. Elle monte dans sa voiture, elle s'assoit au siège et règle son siège. Et moi, j'arrive, j'ouvre la porte en grand. Je dis, madame, vous rendez compte, mais je suis un violeur là. J'arrive là-dedans et je lui dis, madame, il faut que je vous dise quelque chose. Tout à l'heure, Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a montré votre visage. Je vous ai vu dans le magasin. J'ai vraiment besoin de prier pour vous. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et elle m'explique son besoin. Mais elle m'a dit, oui, je veux bien, monsieur. Et là, je prie pour elle. Je n'avais pas fait gaffe que j'avais les mains pleines de glace. Ça fait rien, le Seigneur il dit, prends ses mains. Et là, j'ai prié avec elle. Cette femme a été puissamment touchée. Puissamment touchée. Je n'étais pas en état. J'avais loupé le coup avant et je m'accusais personnellement. Mais voyez comme quoi Dieu, tu as raison dans ce que tu as dit tout à l'heure, il nous donne toujours une deuxième chance. Il nous donne toujours une deuxième chance et il te remet dans le service. Et ce qui est glorieux avec l'apôtre Pierre, c'est que Pierre, m'aimes-tu? Jésus était en train de lui dire, j'ai vu ce que tu as fait. Mais je ne t'accuse pas. Jésus a dit à la femme adultère, je sais ce que tu as fait, mais je ne t'accuse pas. Et le Seigneur vous dit à tous ce matin, je sais ce que vous vivez, je sais ce que vous ressentez, je sais les souffrances que vous traversez, mais je ne t'accuse pas. Et j'ai toujours besoin de toi dans l'Église. On est tellement facile à se mettre en arrière et de dire, Seigneur, tu ne peux pas te servir d'un type comme moi, d'une femme comme moi. Et Jésus dira, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il le remet, malgré le fait qu'il ne mérite pas cet appel. Et souvent on dit, mais nous les pasteurs, ouais, mais c'est des gars bien les pasteurs. Hein, on le mérite. Je peux vous dire, et il est d'accord avec moi, on ne mérite rien du tout. Rien. Seulement, on sait une chose, c'est que malgré nos erreurs et nos faiblesses, on doit se lever parce qu'il y a une mission à accomplir. Et la mission, on sera au pied de la mission. On sera dans la mission. J'ai marqué ici que Dieu ne cherche pas des saints qui méritent de le servir tellement ils ont été bons, mais il cherche simplement des hommes et des femmes qui sont conscients qu'ils ne font pas ce qu'il faut, qui sont conscients qu'ils sont fragiles, mais qui aiment tellement Jésus. Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est ça que je veux vous laisser. Tant que vous aimez Jésus, Dieu se servira de vous. Tant que vous continuez à aimer Jésus, même avec votre petite capacité d'amour, avec toutes vos blessures derrière, il y a des gens qui me disent, moi Jojo, j'irai servir Dieu quand je serai guéri de tout. Alors tu n'iras jamais servir Dieu. Parce que j'ai encore d'énormes blessures dans mon cœur. Pourtant, j'ai une psy à mes côtés qui me prend souvent dans son bureau. Mais ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout. Je continue à servir parce que je dois le servir. Et c'est ça que je voulais vraiment vous laisser ce matin, c'est ne laissez pas, j'ai envie juste de vous laisser ça, ne laissez pas les autres vous accuser, mes amis. Ils ne savent pas ce que vous traversez. Ne laissez pas les autres vous accuser. Ils ne savent pas ce que vous vivez. Ne laissez pas votre cœur vous accuser. Ma femme me dit souvent le sentiment, le ressentiment. Ce que tu sens, c'est en train de te mentir, c'est en train de t'accuser. Ne laissez pas le diable vous accuser, ne laissez pas votre situation vous accuser, ne laissez pas une mauvaise période dans votre vie vous laisser croire que vous avez une mauvaise vie. Il y a eu des passages dans ma vie qui ont été terribles, où j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus servir, je ne peux plus prêcher. Si, tu continueras à prêcher. Parce que le diable me faisait croire que dans l'état où j'étais, je n'étais pas capable de prêcher. Mais si, le don est là. Et chacun d'entre vous ici, vous avez reçu des belles choses. Vous êtes ça. Vous êtes ça. Et ça, quand quelquefois c'est un peu sali, et je finis avec ça, le tableau que Dieu a créé quand il vous a créé, c'est un tableau de valeur. C'est un Picasso de grande valeur. Et ce n'est pas parce que ton tableau, il a été traîné dans la boue, qu'il a perdu sa valeur. Ce n'est pas parce que quand tu pêches, il y a un peu de boue sur ton tableau que tu as perdu ta valeur. Laisse Dieu te nettoyer. C'est lui qui a créé le tableau. Laisse-le te nettoyer. Laisse-le simplement te nettoyer un petit peu. Tu as perdu. Tu as exactement la même valeur qu'avant. Et le diable, il voudrait te dire, parce que tu fais ce que tu fais, parce que tu penses ce que tu penses, et parce que tu dis ce que tu dis, alors tu n'es plus digne de quoi que ce soit. J'aimerais vous dire, vous êtes tous dignes ici. Parce que Jésus vous juge dignes. Parce qu'il vous saisit comme des fils et comme des filles. Vous n'êtes plus ceux qui appartiennent à leur vie passée. Vous appartenez à ce Dieu du ciel. Laissez le Seigneur nettoyer son tableau. Et je vais juste vous laisser Philippiens 3 qui dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui dira, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. C'est ça, c'est moi ça. Je n'ai pas atteint la perfection, j'en suis loin. Oh là là, purée combien j'en suis loin. Mais il disait, je cours pour tâcher de le saisir. Malgré mon imperfection, je cours pour tâcher de le saisir. En oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste. Waouh, je ne veux pas me laisser accuser. Pendant longtemps, j'ai laissé le diable m'accuser. Vous savez sur quoi le diable me plantait souvent? J'ai toujours fait que des petits boulots. Je suis quelqu'un qui a... C'est pour ça que j'ai poussé Damien à faire des études et puis ça a été limite. On a eu du mal. Mais comme je n'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai toujours eu que des petits boulots. Je gagnais très moyennement ma vie. Et le diable, vous savez, où il m'accusait, il me dira, tu ne pourras pas nourrir ta famille. Tu n'arriveras pas à nourrir. Mais même en tant que chrétien, et comme j'avais de la famille autour de moi qui gagnait très très bien sa vie, à chaque fois que je les voyais dans leur niveau d'aisance financière, mais je revenais d'un week-end dans ma famille, mais moi j'étais complètement démoli. Et Seigneur me disait, mais t'en as pas marre de pleurer sur toi? N'es-tu pas le fils de Yahvé Jiré, celui qui pourvoira? Est-ce que j'ai un jour manqué dans ta vie, en quoi que ce soit? Non, il vous demandera Damien, elle a toujours eu un dessert à table. Toujours eu un dessert. Et pourtant, on a été tellement juste, mais je bénis Dieu parce que quand j'étais pauvre, il était riche pour moi, parce qu'il y avait géré, mais ça me rattrapait, il y avait cette voix d'accusation qui vous accuse aussi souvent, mais dans peut-être d'autres domaines, qui est en train de vous accuser pour vous faire croire que vous êtes le pire ou la pire des pires et que vous n'y arriverez pas. Vous êtes en train de passer un examen ou quoi que ce soit et vous allez voir, l'examen, ça va être grave. Ou alors vous voulez un poste. Oh non, c'est quelqu'un d'autre qui l'aura parce qu'il est bien plus capable que moi. J'ai eu des postes dans des boulots. C'est incroyable comment je suis passé devant tout le monde. Il y a des moments, je disais au recruteur, parce qu'à un moment donné, je changeais de boulot tous les deux ans. J'ai dit au recruteur, mais... vous n'allez pas me prendre, ce n'est pas possible. J'ai discuté avec les gars au café, c'est que des ingénieurs, et vous allez prendre un magasinier comme moi, mais non, là, vous déconnez, là, vous vous plantez. Non, monsieur, on a vu vos tests. C'est vous qu'on prend, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est glorieux. Ne vous laissez pas, je vous laisse ça. Ne vous laissez pas accuser par votre conscience. Ne laissez pas votre cœur vous condamner. La Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur. J'aimerais qu'on ferme juste nos yeux un petit peu. J'aimerais qu'on se mette debout. On va se mettre debout et tout simplement, j'aimerais juste prier avec vous. Là, parce qu'il commence à être tard et j'aimerais juste te dire, Seigneur, de poser ta main sur cette église, dans les maillons qui sont dans cette église, les pierres vivantes qui sont ici. Père, je les bénis dans le nom de Jésus.
Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui se fait avoir par son passé, qui croit qu'il est encore accusable, Seigneur, tu mets ta main sur lui, tu mets ta main puissante sur lui, afin qu'il ait un autre regard. Et je prie pour que vous puissiez sur vous, avoir sur vous-même un autre regard que celui que quelquefois vous posez sur vous. Vous êtes digne que le Père vous regarde. Vous êtes digne que le Père vous appelle. Vous êtes digne. Ne laissez personne vous faire croire ce matin que vous êtes indigne de quoi que ce soit. Seigneur, mets dans leur cœur d'avoir un regard sur leur vie qui soit nouveau, un regard neuf. Seigneur, qu'ils puissent croire dans la nouvelle identité qu'ils sont, qu'ils puissent croire dans ce qu'ils sont devenus, non pas dans ce qu'ils étaient, mais dans ce qu'ils sont devenus, dans le précieux nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, lorsqu'ils vont se lever le matin, ils vont se dire, il y a quelqu'un de bien qui se lève, il y a quelqu'un qui va changer sa vie qui se lève, il y a quelqu'un qui va changer la vie de quelqu'un ce matin. Et là, dans le lieu où ils sont, tu vas les faire briller parce qu'ils vont se mettre à croire en eux. Seigneur, ne les laisse pas être troublés par leur propre cœur, leurs propres émotions. Seigneur, ne les laisse pas être troublés par les autres et à écouter les bruits du dehors, mais qu'ils se laissent impressionner simplement par ce que toi, tu dis d'eux, dans le précieux nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, amen.